carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Chef-d'œuvre du théâtre, la rubrique animée par Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Jean-Luc Tardieu à l'occasion du spectacle Cocteau Marais proposé par la Comédie-Française dans son studio théâtre à Paris sous la pyramide du Louvre. En 1983, à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Jean Cocteau, Jean Marais avait souhaité que fût monté un spectacle éclairant de la manière la plus vraie possible la personnalité de Jean Cocteau, ceci à travers des extraits de tout ce qu'il nous avait laissé. Jean Marais avait alors demandé à Jean-Luc Tardieu de l'aider à choisir les textes et d'assurer la mise en scène, Jean Marais incarnant lui-même Jean Cocteau dans cet autoportrait vérité. Ce spectacle connut un grand succès au Théâtre de l'Atelier, puis fit le tour du monde. 26 ans après, Jean-Luc Tardieu a donc eu l'idée de reprendre ce spectacle sous l'égide cette fois de la Comédie-Française et en faisant appel à Jacques Cérès. Presque tous ceux qui l'ont vu vous diront que cette recréation constitue un véritable régal pour l'esprit et pour le cœur, régal que vous pourrez partager jusqu'au 8 novembre. Jean-Luc Tardieu, bonjour.
Bonjour.
Ce qui frappe, peut-être la première chose qui frappe lorsque l'on voit ce spectacle, c'est à quel point Jean Cocteau associait à la fois sa personne, sa vie et son œuvre à la poésie.
C'est une des phrases du spectacle. Un peintre fait toujours son propre portrait, un écrivain de même, et si l'écrivain est honnête, l'autoportrait est de l'autocritique. Donc il est sûr qu'on ne peut pas, chez Cocteau, séparer la vie et l'œuvre qui ont été déjà par ses inspirateurs et par ses muses. Et quelles muses ? On peut, en laissant évidemment à la tendresse qui les a unis, la discrétion et le voile qui ne regardent qu'eux, mais Jean Marais fut quand même un éveilleur d'inspiration non négligeable.
Il était poète jusque dans sa manière de réagir, hein, dans sa manière de réfléchir.
Mais je crois que le jeune homme qu'il a été et qui est devenu connu, puis célèbre assez vite, c'est toujours auto-désigné finalement le prince des poètes. Vous savez qu'à Maison Lafitte, où il est né, sur la maison natale, il y a une plaque portant la mention « Ici est né Jean Cocteau, prince des poètes ».
Oui, mais c'était un intellectuel quand même. Mais
c'était un intellectuel, mais ça n'était pas un cérébral. Je crois que ce que le spectacle, j'espère, mais je le pense, réussit assez bien à restituer, c'est la part profonde de cette personnalité très douloureuse. Cet homme très brillant, auquel on faisait d'ailleurs le reproche de ce brio et de ce brillant, il y a un mot qui courait, qui était peut-être même de lui, parce qu'il était capable de les véhiculer sur lui-même, un cocktail des Cocteaux.
Ouais. Alors on y reviendra sur cet aspect souffrant tout à l'heure, mais je voudrais qu'on reste d'abord sur la poésie et l'aspect donc création dans son œuvre. Vous dites que ce n'était pas un cérébral, c'était quelqu'un donc qui réagissait épidermiquement, mais est-ce qu'il était également poète dans ce qu'il cherchait à exprimer ?
Oui, d'autant plus que c'est un homme qui a travaillé, un artiste qui a travaillé sur tous les supports. La poésie pour nous, ce sont des vers, mais vous savez qu'il appelait par exemple son cinéma « poésie cinématographique ». Il estimait, il a donné à tout ce qu'il a fait, que ce soit du théâtre, du cinéma, la littérature, même quand elle n'était pas à vocation poétique, ses romans par exemple, voire ses essais, et bien sûr à son œuvre graphique, il a toujours donné le nom de poésie.
Alors il y a dans votre spectacle cette formule formidable, « je décalque l'invisible ».
Oui, elle raconte assez bien finalement ce que nous sommes en train d'essayer laborieusement pour cet homme qui, lui, n'était pas laborieux. Quand je parle de laborieux, je parle de moi, Monsieur Pogam, bien entendu.
Je vous laisse la responsabilité de votre jugement,
Je le prends totalement. Et alors, c'était raconté avec cette formule. Il le dit d'une autre façon. Je cherchais à retrouver l'idée. Il le dit d'une autre façon. À un moment, il parle de l'inspiration. En disant, vous savez, public, vous croyez que l'inspiration, vous en faites une drôle d'idée, c'est un don qui vous vient du ciel, mais pas du tout. L'inspiration, c'est laborieux, ce n'est pas inspiration qu'il faudrait dire, c'est expiration, parce que ça vient des tréfonds de l'être et il faut aller visiter ce qu'il appelle la mine, au plus profond de soi, au risque de rencontrer le grisou. Le gaz mortel. Donc, ce n'est pas une démarche du tout légère.
Oui, c'est toujours le quiproquo, le malentendu qu'il y a concernant Cocteau. Un autre élément que met en valeur ce spectacle, immédiatement, c'est la manière dont il était à l'affût de tout ce qu'il y avait de créatif dans son époque. Enfin, c'est quasiment une manie chez lui, ça.
Bah, l'exemple le plus représentatif, parce qu'il a en plus été lié là de façon tragique à sa vie personnelle et sa vie amoureuse, c'est Raymond Radiguet. C'est un garçon, quand il l'a rencontré, qui devait avoir 15 ans et demi. Il le dit, j'ai tout de suite deviné son étoile. Ce qu'il n'avait pas deviné complètement, c'était que l'étoile serait aussi tragique et que 5 ans après, il disparaîtrait... conditions dans lesquelles il est disparu.
Une étoile d'une maturité étonnante. Hein. On a du mal à croire ce que vous laissez dire à Cocteau dans ce spectacle. Quand Radiguet lui dit, enfin, je vais être ton guide. Radiguet, 15 ans, 17, quel âge avait-il à ce moment-là? 17 ans
Oui, 15, 17 ans, oui.
Disant à Cocteau, je vais être ton guide. Il faut quand même le faire.
Oui, mais parce que je crois que c'était une part de vrai. Quoi. Ce jeune homme avait la prescience des choses. Et il avait aussi cette liberté d'esprit de la jeunesse où il apprenait à Cocteau et à l'entourage, hein. Il y avait Georges Auric, il y avait tous ces gens-là autour, à ne pas se laisser aller aux idées préconçues. Il parle même de l'Académie à ce sujet, en disant « je n'étais pas tenté par l'Académie parce que j'avais l'idée préconçue que c'était quand même un lieu de vieilles inspirations, etc. » Et c'est grâce sans doute à Radiguet qui un jour m'avait éveillé l'esprit là-dessus que je me suis dit « mais il faut lutter contre ça, c'est une idée préconçue et c'est pour ça que j'ai posé ma candidature ».
Alors il a été dans toutes les avant-gardes, hein, on le lui a reproché, donc il a découvert Stravinsky avant beaucoup de gens, il a été avec les Dada et ainsi de suite. Vous me rappeliez un mot de Picasso très drôle.
Ah bah qui est sublime, oui. C'est-à-dire que Cocteau disait Picasso, mais Cocteau, non, mais c'est pas du tout, il court pas après le train, il court devant la locomotive.
Mais quand vous disiez qu'à propos des avant-gardes, donc, il n'hésitait pas à descendre au plus profond de lui-même et d'aller chercher le grisou, il y a cette phrase extraordinaire, c'est plus facile de reconnaître que de connaître.
Ben c'est tellement vrai. Et les instants où il a utilisé cette phrase, là, que dans le spectacle en tout cas, sont liés à la création de Parade et du Sacre du Printemps, c'est que le public était complètement désarçonné par la nouveauté de la proposition qui lui était faite. C'est beaucoup plus confortable maintenant, même maintenant, pour nous, de réentendre avec bonheur immédiat, parce que déjà décrypté, le Sacre du Printemps. Pensons à ce que cette musique pouvait bousculer à l'époque.
Donc il y avait chez Cocteau, il y avait cette volonté d'aller chercher ce qu'il y avait de plus créatif, quelle que soit la difficulté de la démarche entreprise.
Oui, absolument, oui. Sachant que la difficulté naissait, il accuse souvent le public, hein, en disant « le public, quelquefois, est décadent ». Et quand il raconte la création à 2 pas de l'endroit où nous parlons, au Châtelet de Parade, il estimait que le public n'était pas apte à recevoir ça au moment où ça lui était proposé. Mais il devait le faire, voilà. Si l'art n'apporte pas de nouveauté, voulez-vous me dire à quoi il sert, franchement?
Alors, vous évoquiez tout à l'heure un autre trait caractéristique de ce spectacle, hein, en tant que représentatif de Jean Cocteau, c'est le décalage qu'il y a, pour ne pas dire le gouffre immense, entre l'image qui domine le plus souvent de lui, donc dandy, brillant, superficiel, presque prestidigitateur, hein, des mots et des idées, et sa réalité d'homme.
Et c'est ce que Jean Marais m'a éclairé comme chemin, en me disant, cet homme-là n'est pas celui que l'on croit. Donc, observe bien dans tout ce que nous avons à notre disposition, parce que le jour où la bibliothèque magique a été ouverte pour envisager la construction concrète de ce spectacle, il y a eu un émerveillement, mais aussi une grande angoisse, parce que je crois qu'il y avait 112 opus cachés là, quelques manuscrits, quelques inédits.
Oui, et beaucoup d'inédits.
Et oui, bien sûr, à l'époque. La correspondance n'était pas, la correspondance amoureuse n'était pas encore éditée. Jean Marais a décidé de l'éditer pas mal d'années plus tard, et en tout cas avant de disparaître, c'était sa volonté, en disant au moins je serai là pour pouvoir la commenter, on ne dira pas n'importe quoi. Il est de fait qu'une lecture attentive nous ramène très souvent à cette préoccupation d'être, pour le public, un homme qui n'est pas celui qu'il est lui-même. Avec cette phrase magnifique qui est dans Orphée, je crois, qui a été tirée d'Orphée, où il dit « mais l'homme qu'on décrit, mais je n'aimerais pas le rencontrer, je ne voudrais pas me rencontrer ».
Oui, je ne voudrais pas me connaître.
Mais voilà.
Je ne voudrais pas me connaître. Mais en fait, quand même, il avait quand même prêté le flanc à la critique sur ce plan-là, hein, parce qu'à 21 ans, il écrivait quand même un recueil de poèmes intitulé « Le prince frivole ». Alors, quand même.
Mais il vivait aussi dans le monde dans lequel il vivait, au moment dans lequel il y a vécu. Et il était fait de ces terres du temps-là, qui avaient aussi sa capacité de frivolité. Dieu sait, on s'amusait beaucoup aussi à cette époque-là.
Oui, il faut dire qu'il est né en 1889, donc vous voyez, il a connu deux guerres, 1910.
Hein, connu deux guerres.
Ouais. Il faut dire, à sa décharge, que le prince frivole, il en a désavoué le contenu par la suite.
Hein. Oui, il y a même des choses dont, en tout cas, sans les désavouer, qu'il n'a pas signé le livre blanc pendant des années, il a récusé qu'il fût de lui.
Mais alors, quant à cette image de dandy, de légèreté, est-ce que vous ne croyez pas quand même que sa liaison avec Jean Marais y a contribué ?
Il est sûr que c'était un couple très très étonnant pour l'époque, où même si tout n'est pas tout simple toujours pour l'homosexualité, à l'époque c'était beaucoup moins évident d'être aussi clairement exposé. Or ils l'étaient tous les deux, dans un vedettariat, même une starisation en ce qui concerne Jean Marais, dont on a peu le soupçon de nos jours. Si vous voulez une toute petite anecdote, un jour, étant chez lui à Valoris, il a envie d'aller faire un petit tour à Cannes, comme ça, et puis boire un pot. Alors allons boire un pot dans un Cannes surchargé de monde en plein été. Et je peux vous dire que s'asseoir à une terrasse de café avec Jean Marais, ça ne passait pas inaperçu. Et à un moment, je lui dis, mais écoute, on ne va pas rester là, regarde. Il me fait, oh, mais écoute, ça c'est rien, tu aurais connu ça il y a 20 ans. Là, oui, j'aurais risqué ma vie.
Oui. Alors, il y a cet aspect, donc, cette ambiguïté quant à son image. Mais l'une des choses que montre le plus votre spectacle, c'est à quel point Cocteau était, et c'est vraiment une grande surprise pour beaucoup, un homme de contestation et que cette démarche a constitué un creuset majeur de son œuvre. Cocteau, contestataire.
Mais oui, parce qu'il se refusait à la pensée préétablie.
Vous disiez tout à l'heure.
Oui, absolument. Donc,
oui, mais de là à une contestation systématique des choses, c'est quand même, il y a une marge, quoi.
Non, pas tellement. Je trouve que si on veut garder un esprit libre, il faut se donner cette possibilité de contester. Alors, à partir de là, si vous vivez comme il a cherché à vivre, il agit comme ça.
Alors, le moment peut-être le plus fort, c'est une réaction personnelle de votre spectacle, c'est justement cette harangue aux jeunes gens. Où l'avez-vous trouvé, ce texte? Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce texte, parce qu'il est...
Ah, comme ça, spontanément, je ne sais pas, jeunes gens qui m'écoutaient, c'est assez difficile, je vais déjà vous rechercher l'origine. L'origine, déjà, c'est extrait des entretiens sur le cinématographe. Donc, ce n'est pas du tout un texte à vocation profondément littéraire. C'est quelque chose, c'est un essai, c'est assez spontané. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a qu'une façon de vivre, c'est la désobéissance.
Obéir à l'ordre de désobéir.
Obéir à l'ordre de désobéir. Et si vous n'obéissez pas à l'ordre de désobéir, mais mon cher monsieur Pogam, vous serez esclave du 2 et 2 font 4. Or, Cocteau vous le dira, 2 et 2 font 22.
Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il associe ça à l'histoire de France.
Précisez ce que vous voulez me dire.
Il dit, il y a une phrase dans ce spectacle, lorsqu'il parle de la tradition d'anarchie de la France.
Absolument, oui. Et de la même façon que lorsque le spectacle compte la libération de Paris, et ce sont les mêmes images qu'il emploie en disant, savez-vous ce que c'est qu'une abeille qui veut sauver son miel l'autre phrase, mais il faudrait que je la retrouve parce que vous me faites faire un exercice de mémoire assez difficile. Je vous rappelle que c'est Jacques Cérès qui interprète le spectacle, pas moi.
Alors donc, c'est vous qui avez trouvé les textes, Mais enfin, l'idée, c'est celle-là, quoi. C'est-à-dire que on est fidèle à la France en étant un contestataire. En réalité, la tristesse dans tout ça, lui qui croyait à la pérennité des livres, à la pérennité des idées, il y croyait absolument.
Oui.
Comment en mai 68, quand on dit tout ça aujourd'hui, comment en mai 68, on n'a pas mis Cocteau en avant? Parce que finalement, tout ça, c'est mai 68.
Ben parce que,
peut-être
d'abord,
de façon moins intelligente, mais c'est quand même dans mai 68.
En tout cas, moins formulé, quoi. Ça, c'est certain, parce que ce qui est merveilleux dans les idées que nous rencontrons, c'est qu'elles sont en plus formulées dans une langue exceptionnelle, qu'il est, comme il le disait, j'essaie d'écrire sec, direct, de taper dans le mille. C'est ça qui est merveilleux. Dans cette formule, j'ai retrouvé l'anarchie, je crois, là. C'est... voyons. Si on demande à la France quelle est son arme secrète, elle répondra « On ne divulgue pas une arme secrète ». Mais elle ne craint rien de la révéler, puisque c'est une arme inimitable. C'est sa tradition d'anarchie.
– Alors, vous disiez tout à l'heure donc, que Radiguet avait peut-être joué un rôle dans son évolution quant à sa perception de l'Académie française. Il n'en reste pas moins que son entrée en 1955 contraste quand même avec cet état d'esprit-là. Qu'est-ce qui la justifie, en réalité, cette entrée, enfin, de sa part? Pourquoi?
Ben, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'était, il dit ce mot à un jeune auteur qui s'étonnait que j'accepte l'Académie française, disait, quant à moi, qu'est-ce que j'irais faire au milieu de ces vieillards? Il lui a répondu, sans doute, sont-ils trop verts? Et je crois que c'est ça. C'était une idée pour lui, c'était une idée préconçue.
Et rien que pour ça, il fallait y aller.
Absolument, donc il fallait le contredire.
Alors, comme il avait beaucoup d'humour, il dit qu'en réalité, la chose qui l'a probablement le plus frappé, ce sont les roulements de tambour quand il est arrivé.
Oui, absolument.
C'est vrai, ça?
Oui, ben, oui, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein, et le regard des bustes, accompagné par le regard des bustes, on sait bien que dans cette magnifique et noble maison, quand vous passez dans le couloir, les bustes vous regardent. Mais ça, il faut dire que c'est le fantasme du cinéaste de La Belle et la Bête, hein, où les bustes, effectivement, ont des yeux vivants, regarde et où les chandeliers sont tenus par des bras mobiles d'hommes.
Alors là, presque pour se faire pardonner, il dit « j'en ai enfin reçu assez pour ma raclée d'honneur ».
Oui, une raclée d'honneur après la raclée de coups de bâton. Et avec son ironie, il conclut « un tout petit peu trop ? Non, c'est juste assez pour moi ».
Alors l'essentiel, vous l'avez déjà évoqué, mais c'est peut-être la grande surprise pour ceux qui ne connaissent pas bien Cocteau, à travers ce spectacle, c'est de découvrir à quel point c'était un homme souffrant.
Oui, un roseau pensant, un roseau saignant, disait-il. Oui, parce qu'il souffrait, de tout. D'abord, il a souffert physiquement. C'est un homme qui a énormément souffert physiquement, qui a souvent été très très malade. On se rappelle peut-être que le tournage de La Belle et la Bête a été un calvaire. Il souffrait d'une maladie de peau effrayante. Il y a des photos absolument invraisemblables à observer où il dirige les extérieurs avec une espèce de masque qu'il s'était fait pour se protéger. Il ne supportait pas le soleil. Et dans son élan admiratif et amoureux, il disait « c'est parce que je suis puni, c'est à cause de ce que je fais subir à Jean Marais tous les matins, les 5 heures de maquillage, la colle, etc. C'est, voilà, c'est de la solidarité, en quelque sorte. » Donc il a déjà, ça a été souvent, longtemps, un homme souffrant. Mais alors souffrant intellectuellement, parce qu'il se débattait contre cette image qui n'était pas la sienne. Et ça, merci Jean Marais. Merci, dans le travail que nous avions fait à l'époque, de m'avoir aidé à, en effet, bien trouver les passages constants où il exprime ça et qui sont quelque chose de tout à fait fondateur pour comprendre Cocteau.
Il y a toute une série de textes, hein. Je pense à ce texte dont le titre a été emprunté à Fontenelle, sur la difficulté d'être, je pense à des titres comme « Le secret professionnel »,« Le journal d'un inconnu », »,« Le cordon ombilical », à chaque fois, on voit là-dedans la douleur, une perception d'une certaine fatalité. Enfin, sa vie intérieure n'était pas une force tranquille. Hein.
Non, ce n'était pas une force tranquille et ça n'a pas été non plus une force tranquille dans sa vie amoureuse parce que ça a été une vie très, très, très chahutée. Donc, pire qu'un chahut, parce que je crois vraiment que, et le spectacle le raconte assez bien, la disparition prématurée de Radiguet a été chose de... Ah ben, ça a été dévastateur.
Absolument. Au point qu'il s'est jeté dans l'opium, si l'on peut dire.
Mais absolument.
C'est à ce moment-là,
c'est la seule façon de revenir à la surface, quoi, en quelque sorte. Et après, cette traversée qui a été très longue et épisodique, en réalité, ça a été présent presque toute sa vie, à partir du moment où il y avait goûté.
À la fin, il a arrêté, non ?
Un petit peu. Enfin oui, il a arrêté, mais ça a été très très difficile. Jean Marais me racontait hors antenne, mais maintenant tout ça appartient à l'histoire, comment dans des séjours à Montargis, il était obligé de cacher ce qu'il trouvait dans une chasse d'eau. Et que l'homme à l'affût de son bien-être réussissait à le trouver.
Oui. Vous dites bien-être, et Cocteau a cette phrase étonnante quand même, en parlant de l'opium, « je lui dois des heures parfaites ». Et il parle de mes ailes de fumée.
Mais oui, parce que c'était bien ça le problème. Moi, c'est quelque chose que je ne connais pas à titre personnel, sous quelque forme que ce soit. Mais c'est bien le problème. C'est que dès qu'il y a un mal de vivre, ça vous donne la possibilité de supporter tout ça. C'est l'opium est la seule substance végétale qui vous donne la conscience d'être un végétal. Ce ne sont pas les mots exacts, parce que ma mémoire défaille, mais c'est ça qu'il raconte.
Oui, vous participez à la nature d'une certaine façon.
En quelque sorte, c'est un retour d'euphorie simple, quoi.
Alors, il semble que cette souffrance intérieure n'ait fait que s'accentuer avec la perspective un peu plus proche de la mort. Il avait cette peur de la mort, il avait cette hantise de l'après.
Ben, on le vérifie, vous savez, sur les photos. Déjà, les dernières photos de Jean Cocteau, je trouve qu'il a un regard tragique et traqué. Et c'est très, très impressionnant. Ce qui, évidemment, n'est pas tout à fait, si vous me le permettez, d'évoquer mon bel ami, puisqu'il est devenu ça, et c'est un cadeau de la vie, Jean Marais, qui, lui, avait un regard sur la mort
serein.
Tout à fait différent. Je vais livrer ça, parce que c'est la plus belle chose que je puisse véhiculer de lui. La dernière fois que je l'ai vu, pas la dernière fois que je lui ai parlé, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était assez peu de temps avant sa mort.
C'est-à-dire à un moment où physiquement il n'était plus quand même...
Il n'était plus que plus. Il ne pouvait pratiquement plus écrire, il ne pouvait bien sûr plus peindre, plus dessiner, plus faire de poterie. Enfin, il était... Et j'attendais qu'on vienne me chercher pour me raccompagner à l'aéroport, et je le vois dans cet état physique, avec un esprit par contre en éveil, toujours la même curiosité. Et je m'inquiète un tout petit peu en lui demandant mais comment il emploie ses journées, tu ne t'ennuies pas? Et avec son fameux éclat de rire, qu'est-ce que tu me demandes si je m'ennuie? Mais enfin, écoute, Jean-Luc, comment m'ennuyer? J'attends ma mort avec une extrême curiosité.
Là, on voit à la fois tout le panache et la modestie de Marais, quoi.
C'est magnifique de philosophie, et j'aimerais pouvoir la faire mienne.
Dire la même chose. Cocteau, c'était pas tout à fait ça. Hein. Je reprenais un certain nombre de textes, allégories, crucifixion, clair-obscur, requiem. Là, c'est plutôt la mort souffrante.
Hein. Ah, mais tout à fait.
Et avec vraiment l'inquiétude de l'après, quoi.
Jean Marais lui était sauvé par une foi profonde. Très profonde. Je ne sais pas très bien la profondeur de la foi de Cocteau. Ce sont les derniers mots du spectacle. Hein. Voici mon toast funèbre. J'étais le véhicule d'une force qui veut vivre après moi. Bien qu'elle vive, elle verra ce que c'est.
Alors, j'ai un peu peur de vous poser cette question parce que la formulation est un peu pédante. Hein, mais après tout, Cocteau, c'est aussi un peu cela. Est-ce qu'on peut dire qu'il a su tirer de sa souffrance une véritable esthétique, au fond ?
Bah, c'est indéniable, oui, bien sûr, mais tout artiste tire de ses joies ou de ses souffrances son esthétique. C'est indissociable, ça, je pense. Donc, c'est indéniable qu'il ne s'y prélassait pas. Il essayait de la fuir. Il avait une soif de bonheur, hein, profond.
Alors, c'est ça. Comment expliquez-vous que cet homme, donc, qui a tant souffert, qui a porté la souffrance en lui, viscéralement, intellectuellement, moralement, ait pu garder jusqu'à la fin cette capacité d'émerveillement qui est tout le monde?
Mais parce que je crois que c'est ce qui nous permet à tous, pauvres humains, de survivre. Nous avons besoin de cet appel d'espoir, de cette curiosité de la vie, sans quoi ben, nous nous éteignons.
Mais c'était un terrien, c'était un...
Je pense qu'il était... oui, vous avez de raison de dire ça, parce qu'il parle assez volontiers de son aspiration en disant « mais il n'y en a pas, elle ne nous tombe pas du ciel, je travaille ». Et c'est un homme qui a travaillé vraiment toute sa vie, et en plus de façon très manuelle. Il laisse une œuvre plastique considérable. Les poteries, tout ça, il y a beaucoup de choses. Je parle de Jean Cocteau, là,
oui, bien sûr.
Parce que Jean Marais aussi.
Mais on peut reprendre la formule que vous citiez tout à l'heure. Hein. Écrire, ce n'est pas une inspiration, mais une expiration. Donc c'est vraiment le physique, le charnel, qui quelque part l'a sauvé. Quoi.
Je suis allé, grâce à Carole Weisweiler, avec Jacques Cérès, il y a quelques mois, à l'approche de la préparation du spectacle, visiter la villa Santo Sospiro, qui est la villa qu'il avait, selon ses propres termes, tatouée. C'est-à-dire qu'elle est entièrement décorée par ses mains, tout, partout. Les escaliers, les entrées, le salon, la salle à manger, les chambres, c'est assez extraordinaire. Et il avait absolument besoin, comme ça, de travailler. Et on a vu son petit bureau, qui a été religieusement gardé intact. Vous vous rendez compte que cet homme, qui recevait des centaines de lettres par jour, répondait personnellement, n'avait pas de secrétaire.
Oui, c'est son lien.
Absolument.
Alors, ça, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Curieusement, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le cinéma qui fait que les gens se souviennent le plus de Cocteau?
Ben, c'est sûr que c'est un véhicule permanent. Et puis, c'est un art jeune, qui n'a quand même que sa petite centaine d'années. Hein.
Quelle est l'œuvre de lui qui vous touche le plus, en termes cinématographiques?
Oh, je crois que je peux en citer personnellement deux. C'est bien sûr La Belle et la Bête, parce que là, on est dans le chef-d'œuvre absolu, et sans doute flirtant avec la possibilité du qualificatif Orphée. Ce qui ne veut pas dire que les autres soient négligeables. Hein. Les Parents terribles, c'est remarquablement réalisé avec les fameux plans qu'on avait évoqués, je crois, où Michel vient faire la confidence de son amour.
Ça, oui, on a eu une conversation, on peut vous le dire, ça, on peut raconter les conversations que nous avons eues en préparant cette émission, justement, lorsque vous me disiez que finalement, le fait que Cocteau ne soit pas un professionnel, entre guillemets, du cinéma, lui a permis de créer des choses que personne n'avait faites avant lui, et en même temps de rattraper ses bourdes.
Mais complètement, parce qu'il ne savait pas comment faire, il le disait. Alors donc, il inventait. Il inventait une méthode qui finalement devenait pérenne, ou si elle n'était pas conforme, elle n'avait pas besoin d'être pérenne parce qu'une méthode nouvelle montrait qu'elle avait été nouvelle, unique sans doute, mais qu'elle donnait aussi un résultat unique.
Alors dans Les Parents terribles, il y a cette scène de la confession. Vous rappelez ce qu'est cette scène pour ceux qui n'ont pas vu
le film ? Michel vient de passer la nuit dehors parce qu'il a rencontré une jeune fille et quand il rentre à la maison complètement bouleversé par l'absence du jeune homme non motivé, il va faire ses confidences à maman et le plan, pour ne pas la regarder, il pose son manteau sur son épaule, derrière elle, et la caméra s'approche, et on ne voit plus que la bouche de Michel Jean Marais et les yeux de maman Yvonne Debray, c'est-à-dire la communication dans l'oreille et l'effet dévastateur que la nouvelle est en train de provoquer chez maman. Alors, à notre époque où on va fouiller au fond de la pupille par des moyens techniques extrêmement sophistiqués, ce qui n'était pas le cas, mais c'était extrêmement novateur, ça.
Et alors cet art qu'il avait de récupérer les bourdes,
sur
ça,
les parents,
c'est quand même très fort.
Sur Les Parents terribles, dernière scène, maman est morte sur le lit, tous les autres personnages sont écroulés autour du lit et la caméra fait un long travelling arrière et part dans le couloir et on ne voit plus que le lit qui s'éloigne, une lampe à gauche, etc. À l'époque, il n'y avait pas de caméra témoin et tout ça. Donc il fallait attendre 2-3 jours pour avoir le résultat et on appelle Jean Cocteau en lui disant « Écoutez maître, il y a vraiment un gros gros problème, le travelling arrière n'était pas calé et tout brinque-balle. Alors, comment faire ? Mais on ne peut pas le refaire puisque le décor a été détruit. Et alors, il s'est fait projeter le truc, il a rajouté la célèbre voix off et la roulotte reprise en brinque-ballant sa route. Et tout le monde a l'impression d'une volonté absolue. Accident du mystère et faute de calcul céleste. J'ai profité d'eux. Je l'avoue.
Est-ce qu'il ne serait pas étonné aujourd'hui de découvrir qu'avec le cinéma, ce pourquoi il est sans doute le plus connu au monde, ce sont ses dessins ?
Non, parce qu'il y attachait, il me semble, qu'il n'a jamais eu de hiérarchie dans les arts, non, pas du tout. Non.
C'est-à-dire qu'il était le poète du tout, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que l'expression poétique trouvait un support qui pouvait être l'écriture, le poème, le roman, l'œuvre graphique. C'était ce qu'il exprimait le mieux au moment où quelque chose le traversait, quoi.
Alors on a évoqué très brièvement Picasso, ils étaient très 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 proches, mais de manière extrêmement complexe. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a un lien entre la manière de dessiner de Cocteau et certains dessins de certaines époques de Picasso ?
Oui, mais de toute façon, il y a toujours des liens, vous savez, parce que quand, tout près d'ici, je vais quelquefois dans la salle des sessions du musée du Louvre, qui est donc l'antichambre du musée du Quai Branly, il y a 2-3 masques africains dont on se dit que clairement Picasso les avait vus. Hein. Nous sommes tous héritiers de quelque chose. Alors je crois qu'il y avait une façon de s'influencer, mais je ne dirais pas que ce fût à sens unique.
Pour vous, le roman de lui qui tient le mieux la route aujourd'hui ? C'est pas une question à 1000 francs. Hein.
Sentiment
personnel.
Il est tout à fait clair que Thomas l'imposteur. Garde toujours un lectorat jeune immédiat. Les Enfants terribles ne laissent pas indifférents non plus.
Et la pièce de théâtre, pour vous, qui tient le mieux la route ?
J'ai envie de vous répondre par rapport à moi. Celle que, si on me le proposait, je mettrais en scène le plus volontiers, ce serait La Machine infernale.
Pourquoi ? Parce que ça a une dimension universelle dans son thème ?
Totalement universelle.
Vous rappelez le thème pour ceux qui ne la connaissent pas, cette pièce ?
C'est Édipe, quoi. Voilà, soyons simples. Vous avez des auditeurs qui peuvent remplir le blanc. Là, quand je dis Édipe, ça suffit.
Alors, on a, oui ?
La fameuse scène du Sphinx, qui avait été créée par Jeanne Moreau et Jean Marais. Oui, je pense que c'est celle qui doit pouvoir trouver son public, le public contemporain, sans difficulté.
Est-ce qu'on peut dire de lui que c'est un poète dont le meilleur, sur le plan poétique, s'exprime en dehors de ses poèmes eux-mêmes ? Qu'est-ce qui reste de ses poèmes ?
Mais tout ce qu'on vient de citer.
Oui, mais c'est ça.
Finalement.
Ce ne sont pas des poèmes, c'est son œuvre. Oui. Ce sont des films, ce sont des pièces de théâtre, ce sont des romans.
C'est son œuvre et sa vie, quoi. Vous savez, je pense que c'est un... Là, c'est un tout. C'est un tout absolu. Évoquer son œuvre, c'est évoquer une vie et réciproquement. Il a écrit tout ça et fait tout ça, puisqu'il n'a pas fait qu'écrire, parce qu'il était qui il était, avec la tragédie fondatrice de sa tragédie. Je vous rappelle quand même, et ça, il n'en a parlé qu'extrêmement tardivement, que son père s'est suicidé alors qu'il avait 9 ans, je crois.
Non seulement lui, il avait déjà quelque chose, mais en plus, cette,
le drame l'avait visité,
cette proximité de la mort si jeune l'a profondément touché. Alors, il y a aussi quelque chose dont nous ne parlons pas aujourd'hui, c'est-à-dire ses essais, et il y en a eu...
De nombreux.
Mais il y en a un qui est assez prodigieux, c'est celui qu'il a consacré à la tauromachie et à l'Espagne, dont on ne parle jamais, la corrida du 1er mai.
Alors, qui n'est pas récente, moi, dans mes lectures, vous l'avez évoqué, alors c'est vous qui allez en parler, là.
Je voudrais simplement suggérer aux nos auditeurs de découvrir ce texte, parce qu'il y a entre autres des lignes extraordinaires sur la mort de Manolete, qui fut l'un des plus grands toreros de l'histoire de la tauromachie. Vous voulez que j'ai sous les yeux...
Alors, avec plaisir, bien sûr.
J'ai pas votre maîtrise, hein, mais quelques mots, parce que c'est rare que l'on se souvienne d'un texte qu'on a lu il y a 20 ans, mais moi je l'ai connu par cœur, ce texte-là, tellement je le trouvais beau. À Linares, il y eut un rendez-vous. À Linares, il y eut un rendez-vous d'allure clandestine, un secret de bouche à oreille. À Linares, ils échangeaient la dame et lui, messe promesse à Linares, sur un lit de sable et de pourpre à Linares, et quand tout fut consommé, dit, promis, un royal attelage emporta l'obscur défroque de la veuve. Voilà la mort de Manolete, mue par Cocteau.
C'est sublime et merci de l'avoir lu. Et vous savez, peut-être dans la scansion, je trouve qu'on n'est pas loin d'un univers de Garcia Lorca.
Auquel il rend un hommage vibrant d'ailleurs. Tout à fait vibrant. Alors, ce spectacle donc, que vous avez recréé 26 ans après, pourquoi 26 ans après, comme ça ?
Alors, c'était un désir de Jean Marais depuis le début. C'était presque à la limite une obsession. Je voudrais que ce texte vive hors moi. Alors, le hors lui, il a fallu attendre pas mal de temps, puisqu'il l'a joué plus de 500 fois dans le monde entier, comme vous l'évoquiez, du Canada au Japon.
En français, hein ?
Et en français, toujours.
Au Japon.
Oui, ce qui laisse ce rêveur, n'est-ce pas, de nos jours. Et puis voilà, puis l'idée a été là, puis elle n'avait pas germé, mais elle était restée présente. Et puis après sa disparition, aucun déclic n'a eu lieu. Et le déclic, ça a été vraiment Jacques Serres. Ayant eu la chance, parce que c'est une chance de travailler avec Jacques Serres, vous savez.
Oui, vous l'aviez mis en scène déjà.
J'avais mis en scène déjà dans un spectacle de forme traditionnelle qui était Le Vent des Peupliers avec Georges Wilson et Maurice Chevitte au théâtre Montparnasse. Et puis ensuite, dans un acte solitaire, sur un texte qu'il avait lui préparé, qui était du côté de chez Proust.
Et vous avez recommencé avec Daudet aussi.
Avec Daudet, nous avons récidivé. Et puis un jour, comme ça, pourquoi, comment, accident du mystère et faute de calcul céleste, j'ai vu Jacques qui était devant moi dans une sorte de lumière favorable et j'ai eu le déclic. Quelqu'un a dû me taper sur l'épaule, ou les deux d'ailleurs, les deux gens, Jean Marais sur l'épaule droite et Cocteau sur l'épaule gauche. Et je me suis dit, mais c'est Jean Cocteau. Et après, la suite, je lui ai donné le texte. Il a rencontré Muriel Mayette, qui nous a généreusement ouvert les portes du studio théâtre. Et puis,
la
Comédie Française.
Mais il faut dire quand même, aujourd'hui ça paraît évident, mais qu'en 83, au moment de la création, quand Jean Marais arrivait sur scène et disait au fond « je suis Jean Cocteau », il y avait de quoi être un peu estomaqué, non ?
C'est-à-dire que quand Jacques Serres entre sur scène et dit « je suis Jean Cocteau », ça n'étonne personne parce que c'est crédible. En ce qui concerne Jean Marais, ça ne participait pas de la crédibilité, parce qu'ils n'ont rien de commun physiquement. Mais par contre, ce qui se mêlait tout de suite dans le substrat, c'était la magie alchimique, que ce soit Jean Marais, grand compagnon de voyage, qui le dise. Et il y avait quelque chose... Dans le courant du spectacle, il y avait donc ces deux fameuses lettres, à l'époque inédites.
Tous ceux qui ont vu ce spectacle-là se souviennent de ça. Quoi. Les deux lettres d'amour.
Marais se disant à lui-même, mais en incarnant Jean Cocteau, les mots qui lui avaient adressé, glissés sous la porte, c'était les petits poèmes de minuit, glissés sous la porte de la chambre...
Écoutez, on aurait bien aimé écrire ça même dans la journée, nous.
On aurait bien aimé écrire ça dans la journée.
Vous souvenez quelques-uns de ces vers ou quelques-uns de ces mots ?
Ainsi que le roi Marc aimait le beau Tristan, je t'aime et mon amour m'égaie en m'attristant.
Et Serres, qu'est-ce qu'il vous a fait découvrir de Cocteau, Serres ?
À travers tous ses prismes, il a, dans son art très incisif, il a un art très très incisif, Jacques, quelque chose d'immédiatement cocteaulien. Ce que Cocteau revendiquait tellement dans son écriture, je crois qu'on l'a évoqué en début de conversation, il écrivait sec, direct, tapé dans le mille. Jacques Cérès est un diseur qui tape dans le mille, tout le temps. Et sans qu'il n'y ait évidemment aucune recherche d'imitation, je trouve par instant qu'on peut retrouver dans la vibration vocale quelque chose de la vibration vocale de Cocteau. Ce qui évidemment n'était pas du tout le cas de Jean Marais qui parlait sur cette poussée, cette façon comme ça. C'était une force qui allait, quoi. Autre alchimie. Ça rejoint...
C'est la magie du théâtre.
Mais ça rejoint surtout l'indispensabilité sacrée de l'acteur. Vous pouvez trouver le plus beau théâtre du monde, le texte le plus accompli, le plus universel, le metteur en scène le plus subtil, l'éclairagiste, le décorateur. S'il y a un moment, il n'y a pas un acteur qui entre sur le plateau, il n'y aura jamais de théâtre.
Mais d'ailleurs, Cocteau le dit merveilleusement, il place l'acteur au-dessus de lui.
Mais complètement, oui, bien sûr. Parce qu'ils sont d'estrade et nous, de chambre, ils sont de lumière et qu'ils colorent de couleurs très particulières notre ligne d'écriture. Alors voilà, là nous avons l'exemple même. Dans un accomplissement finalement identique, mais par des chemins de traverse qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, comment un Jean Marais et un Jacques Cérès colorent la ligne d'écriture de Cocteau de lumière tout à fait différente.
Mais pour Cérès, c'est, si on peut le dire, l'accomplissement de sa carrière, c'est quelque part...
Écoutez, je vais vous dire que...
Je ne veux pas l'enterrer, hein.
Non, c'est mais non, mais que je veux dire, quand même, mais... vous m'avez tous fait juste un petit peu peur, mais le Stradivarius que j'évoquais, le Paganini qu'il est de lui-même, j'espère bien qu'il y a d'autres joyaux qu'il va venir polir de son art et nous faire rebriller quelques beaux diamants de la littérature.
Alors, ce qui frappe dans la forme de votre spectacle, c'est son dépouillement, sa sobriété, l'élégance du décor et des lumières.
Jean Marais.
Vous avez reconstitué au maximum l'environnement 1983.
Alors, ce n'est pas au maximum, c'est exactement.
Exactement.
Oui, c'est Pierre-Yves Leprince, beau décorateur de son état, qui a accepté cette démarche de reconstitution. Mais c'est vraiment rigoureusement le même décor, celui signé de Jean Marais. Et les lumières de Jacques Rouvérolis, célèbre éclairagiste du grand musical international.
Oui, c'était les showbiz, en fait.
Mais complètement, bien sûr. Et qui signait là ses premières lumières de théâtre. Voilà, ce sont les mêmes, vous avez retrouvé les mêmes.
Et ensuite, il a fait une très belle carrière au théâtre, lui.
Ah bah, aussi. Bien sûr, bah, depuis on se l'arrache. Même quelquefois, je suis obligé de lui rappeler qu'avant d'aller éclairer les spectacles des autres, il doit se souvenir qu'il doit éclairer les miens. Mais alors, j'ai pas besoin de lui rappeler, c'est un homme d'une grande fidélité.
Alors, on évoquait très rapidement la magie du théâtre. Alors, je vais quand même revenir là-dessus, parce que c'est une question que nous posons à tous les gens de théâtre invités dans cette émission. Pour vous, cette magie, qu'est-ce qui la constitue vraiment ?
Cocteau, quand il parle de la poésie, dit « la poésie est indispensable ». Mais j'ignore à quoi. Alors j'ai envie de vous dire « la magie du théâtre est intangible », mais je ne sais pas ce qui la compose. Le savoir, j'ai cette anecdote que j'adore de cette vieille comédienne maintenant disparue, et on pleurnichait déjà sur la mort probable du théâtre, mais ça fait quand même quelques siècles qu'on
l'a prédit. Son cadavre bouge encore,
bouge comme encore assez bien, Dieu merci. Et qui disait, mais le théâtre, mais il ne mourra jamais. Je vais vous dire, ce qui va se passer un jour, c'est qu'un homme arrivera au bureau le matin et tous ses confrères lui diront, mais qu'est-ce que tu as ce matin? Tu as l'air tout gai, qu'est-ce qui t'arrive? Il fait, oh écoutez, hier soir, j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'étais au théâtre. T'étais où? Au théâtre. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le théâtre ? Alors, le théâtre, je vais t'expliquer, c'est formidable. C'est comme le cinéma, mais tout est vrai.
Mais là-dessus, Victor Hugo avait un texte merveilleux, c'est la préface de Cromwell, lorsqu'il disait que la magie du théâtre, justement, c'était le vrai sublimé par l'art.
Il y a aussi Daniel Mesguich qui disait une chose très jolie que j'ai entendue un jour, comme ça, en disant « c'est tout à fait extraordinaire cette comparaison permanente du théâtre et du cinéma, alors que le cinéma, dont on dit quelquefois le contraire de ce que disait ma vieille comédienne, mais qu'il est plus vrai que le théâtre, et c'est pour ça que les jeunes en particulier s'y accrochent plus, alors que voulez-vous me dire, disait Daniel Mesguich, ce qu'il y a de vrai au cinéma, ce sont des taches de lumière sur un bout de tissu. »
Et le cinéma ne rassemblera jamais autant qu'une pièce de théâtre,
non ? Ça, c'est aussi la magie du groupe constitué, et puis cette alchimie du soir. Vous savez bien que si nous étions honnêtes, nous ne dirions jamais « j'ai vu un spectacle formidable ». On dirait « j'ai vu hier soir un spectacle formidable », parce que celui de la veille n'était pas le même que celui du lendemain, et réciproquement.
Donc c'est une œuvre d'art, quoi. Quelque part.
Émouvante et sans cesse renouvelée. C'est comme la gastronomie, quoi. Vous savez, c'est le plat est fait directement par le chef et à un ingrédient près, eh ben, il est sublime ou il est simplement bon.
Oui. L'indigestion vient plus lentement, quoi.
C'est très différent.
Alors, vous parliez d'alchimie et simplement un mot concernant votre carrière. Donc
Vous l'avez trouvé alchimique ?
Oui. Quelle a été cette alchimie qui fait que le garçon d'une province tranquille, que vous étiez dans une famille peu disposée à aller vers ses horizons, que ce garçon-là ait engagé une carrière de théâtre, d'abord comme acteur, mais très vite comme metteur en scène. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette voie-là ?
Dans l'absolu, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas de réponse à ça, parce que ce que vous venez de décrire est absolument vrai. La province, une famille moyenne, raisonnablement ouverte au monde du spectacle, c'est-à-dire très peu, et ben, des petits déclics, quoi, vous savez, qui après sont constitutifs chez un enfant, puis un très jeune homme, de désirs dont on n'a pas très bien compris d'où venait la graine. Moi, j'en ai deux graines repérées, identifiées. Si nous sommes à nous parler aujourd'hui de Cocteau Marais, Jacques Serres, au Studio Théâtre de la Comédie Française, c'est parce que l'enfant que j'étais a vu deux choses. J'ai vu La Mouette de Tchekhov, donc je revendique cette part-là, mais je serais très malhonnête de ne pas revendiquer aussi que j'ai vu Le Chanteur de Mexico avec Luis Mariano. Vous voyez, une vie, ça se compose de tout.
Ce qui explique qu'après, vous ayez mis en scène des textes très très différents, hein. Duras, Hugo, Pagnol, Ibsen, Shakespeare, Giraudoux, Wilde, Aristophane, je m'arrête, je respire, Rostand, Monterland, et and so on. Il y a vraiment cette magie de la découverte, cette magie du dépaysement que vous portez en vous, dans votre amour pour le théâtre.
Moi, j'aime bien ça. J'ai lu un jour un texte où on disait, Tardieu, un parcours éclectique, voire hétéroclite. Je le revendique, oui, bien sûr, mais parce que c'est formidable quand on sort de racines que je n'ai jamais montées, mais je le présume, et de se retrouver confronté aux difficultés de la Veuve Joyeuse, qui est un autre chef-d'œuvre dans son genre. Et voilà, je sais l'expression que j'avais trouvée grâce à vous, d'ailleurs, en vous parlant déjà, mais elle me plaît bien, alors je vais la restituer. J'aime bien me dépayser.
Oh, c'est beau ça, c'est beau. Revenons à Cocteau pour terminer. Et est-ce que, quand on fait le bilan de sa vie, le bilan de son œuvre, est-ce qu'on peut dire qu'il a su répondre à l'exhortation que lui avait adressée en 1913, vous savez, Diaghilev, qui lui avait dit « étonne-moi ».
Alors ça, c'est oui, on peut dire vraiment oui. Et on peut même aller plus loin que ça. Je crois qu'il n'y a pas que Diaghilev qui l'ait étonné. Cocteau, dans cette recherche permanente, est parvenu à s'étonner lui-même. Et c'est peut-être ça le secret de ce qu'il a fait dans sa diversité, dans sa quantité.
Vous qui avez mis en scène des œuvres de Guitry, est-ce que ça vous agace qu'on fasse des parallèles fréquents entre Cocteau et Guitry ?
Ça n'ira pas jusqu'à l'agacement, mais je ne trouve pas ça très, très fondé surtout. Parce que le brio de Guitry, qui ne cache pas la profondeur de l'homme non plus, son regard très acerbe sur la société, sur les hommes, sur les femmes, sur les relations humaines, c'était là aussi. Mais ça n'a jamais atteint la gravité et la profondeur de l'interrogation de Cocteau. Ce qui peut les rapprocher, c'est justement qu'ils étaient des hommes de salon aussi. Et c'est cela qu'on retient plus facilement, quoi.
Si vous le permettez, comme dernière question, une question très personnelle, qu'est-ce que toute votre fréquentation de l'œuvre de Cocteau, toute votre découverte de sa personnalité et de sa vie vous ont le plus apporté dans votre propre vie ?
Alors, ça m'a sans doute aidé à approfondir ma curiosité que j'ai assez naturellement. C'est donné, ça, je n'en fais pas une qualité, c'est comme ça. Mais je trouve que c'est un bienfait des dieux, ceux auxquels on peut croire. Et ça m'a sûrement aidé à ça, cette infinie curiosité de tout. Quand on parlait de mon éclectisme tout à l'heure, je crois que c'est un petit peu ça. Ça ne me l'a pas apporté, je crois que je l'avais. Mais ça me l'a largement conforté.
Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous retenions ensemble de Cocteau cette phrase extraordinaire ? Je suis un nez rouge qui dit la vérité.
Bien sûr, Je ne trouverai pas de plus bon mot pour conclure, Monsieur Pogam.
Jean-Luc Tardieu, merci. Je vous rappelle que vous pouvez voir ce spectacle Octomarais donc au Studio Théâtre de la Comédie Française sous la pyramide du Louvre, cela jusqu'au 8 novembre. Spectacle dont je me permets de redire qu'il constitue vraiment, vraiment un régal et pour l'esprit et pour le cœur. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.